va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. Je continue à partager avec vous sur le thème de la Sainte-Seine et j'encourage tous ceux qui étaient pas la semaine dernière avec nous à écouter le premier message sur le site internet. Maintenant, on met les prédications en ligne parce que comme on est une église qui pratique régulièrement la Sainte-Seine, c'est ce que le Seigneur veut chaque fois que vous vous rassemblez. On veut vraiment qu'on la prenne pas avec un esprit de tradition, mais qu'on la prenne dans la foi. Et moi, je crois, écoutez bien ce que je vous dis, que c'est tous les dimanches matins, lorsqu'on prend le pain et le vin, qu'il doit se passer quelque chose.
Amen.
Est-ce que tu crois cela ce matin?
Amen.
Et pour ça, il faut que Dieu te donne cette révélation. Écoute le premier message, écoute celui-là, et sois là dimanche prochain. Dis-moi amen.
Hein. Amen.
On ouvre ensemble dans Actes, chapitre 2, versets 37 à 42. Après, on prendra le pain et le vin ensemble. Actes 2, 37 à 42. Je rappelle que la Sainte-Seine est partie des messages sur le disciple. Comment devenir un disciple accompli dans le Seigneur? Et il est dit là, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le résultat, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, pas avant, mais en ce jour-là, le nombre des disciples, on les appelle disciples par le baptême, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le peuple dit Amen ce matin. On voit ensemble le modèle de la première église de Jésus ce matin. Moi je loue le Seigneur parce qu'un homme comme Pierre, après la Pentecôte, va prêcher et il va voir 3000 âmes venir au Seigneur. Je disais il y a une semaine, des fois nous on prêche 3000 messages pour une seule âme. C'est beau, non? Un message, 3000 âmes, alléluia. Mais ce qui me touche encore plus avec vous ce matin, c'est que la Bible dit que ceux qui ont été touchés ne sont pas restés simplement au cœur touché. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur touché réunion après réunion, et c'est bien, je suis super content. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. La Bible dit que ceux qui ont eu le cœur touché, premièrement, se sont repentis. Deuxièmement, se sont engagés par les eaux du baptême. Troisièmement, ils ont persévéré dans les quatre choses que nous voyons en ce moment ensemble, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain qui est la Sainte-Seine et non pas une agape, et les prières, dis-moi amen ce matin.
Amen.
Et je vois que dès le début de l'église primitive, on retrouve ces quatre principes. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Moi, ce qui touche mon cœur, c'est de voir que dans l'un de ces quatre principes, on retrouve la fraction du pain. Pour eux, c'était aussi important de rompre le pain que d'aller écouter l'enseignement des apôtres, que de se réunir pour la communion fraternelle et que de prier tous ensemble dans les réunions de prière. Ça avait pour eux une importance capitale, alléluia. Et on le voit à travers le livre des Actes, vous lirez, dans Actes 2, 46, Acte 20, ils le prenaient ou bien tous les jours, ou bien en début de semaine, dans Acte 20, Paul le prend le premier jour de la semaine. Mais pour eux, régulièrement, dans le rassemblement, il y avait une place pour prendre le pain et le vin. Pourquoi je vous dis cela ce matin? Parce que je suis triste de voir que beaucoup de ces points, on les retrouve dans l'église en général, l'église de Jésus aujourd'hui, mais là, Sainte-Seine, il y a des églises qui la pratiquent jamais. Jamais on prend le temps de rompre le pain et le vin. Pourtant, c'est une des deux ordonnances de Jésus. Il nous a laissé le baptême et il nous a laissé la Sainte-Seine. Dis-moi amen ce matin. Et je vois aussi d'autres croyants qui sont baptisés, mais qui passent des mois, des semaines, certains des années, sans venir se joindre à l'église, prendre le pain et le vin. Et ça, c'est aussi quelque chose de dommage. C'est une prescription que Jésus nous a donnée. Et on va voir que ce matin, il y a une des raisons. Ne passe pas un mois sans Sainte-Seine, je t'en supplie, mon frère, ma sœur. Il y a une puissance, il y a un mystère, il y a quelque chose pour ta vie spirituelle derrière la Sainte-Seine. Dis-moi amen. Et je vois que l'église primitive avait reçu cette compréhension. Pourquoi? Paul va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. Il n'a pas été dans la maison, dans la chambre haute, le jour où la Pâque juive était là et que Jésus a institué la Sainte-Seine. Il a reçu ces choses comment? Par révélation. Et lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 11, il décrit la Sainte-Seine comme s'il y était. Il y avait dans cette église une profonde révélation de ce que c'était que prendre le pain et le vin qu'on appelle la fraction du pain. Est-ce que tu as cette révélation, peuple de Dieu, ce matin?
Amen.
Ouhou, hein? Tu as cette révélation ce matin? Amen. Alors on va lire un deuxième passage, Matthieu 26 ensemble. Matthieu 26, versets 17 et 18. Matthieu 26, voilà, versets 17 et 18, le texte où Jésus va choisir le lieu pour la scène, il va dire le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Et on prend directement le verset 26 où il est dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et le verset 29 dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Je crois que Jésus va instituer le repas de la scène par rapport au repas de la Pâque. C'est quoi la Pâque juive? La Pâque juive, vous la lirez dans Exode 12, c'était prendre un agneau, écoutez bien ce que je vous dis, pour chaque famille. Pas un agneau pour tout le peuple. Jésus est l'agneau pour chaque famille. Dis-moi, amen. Amen. Tu prenais cet agneau, tu mettais le sang sur le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort passait, à Goshen, il épargnait le peuple de Dieu alors qu'il n'épargnait pas les Égyptiens. Est-ce que tu me suis ce matin? Et Jésus va prendre cette fête qu'est la Pâque juive et sur cette Pâque juive, il va instituer dans le modèle du Nouveau Testament la Sainte-Seine. Pourquoi Jésus fait-il cela? Premièrement, il fait cela pour nous montrer que c'est lui l'agneau de Dieu. On sait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il est cet agneau qui a été donné en sacrifice pour nous délivrer de la mort. Enfin, dis-moi amen. Mais je sais que Jésus fait également cela, et ça c'est important, pour marquer une nouvelle alliance. Écoutez bien ce qu'on a lu ensemble, il va dire, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il parle d'un nouveau départ, il parle d'une nouvelle alliance, il parle d'une nouvelle ère. Et il est en train d'inaugurer à travers la Sainte-Seine la nouvelle alliance. Et il va pleinement le manifester lorsqu'il va mourir à la croix du calvaire. Et il est en train de leur dire jusqu'à présent, vous fêtiez Pâques, une fête juive. Mais maintenant vous sortez de la loi et vous allez rentrer dans une nouvelle ère qui est la grâce. Et il est en train de leur dire, j'inaugure ces choses le jour de Pâques pour vous montrer que on rentre dans une nouvelle alliance. Dis-moi amen. Et la troisième raison pour laquelle il fait cela le jour de Pâques, ça c'est intéressant. Il fait cela pour nous montrer en réalité que la Sainte-Seine, pour nous dans le Nouveau Testament, doit être un temps de fête nationale spirituelle. Il n'y a personne qui dit trop amen pour moi. Dis encore une fois amen. Dis encore une fois amen ce matin. C'est un temps de fête. Il a choisi un temps de fête pour instituer la Sainte-Seine, comme pour nous dire quand vous venez au culte, quand vous prenez le pain et le vin, c'est un temps de fête. Qui est venu ce matin avec un esprit de fête sur lui? Amen. Amen, hein? Vous savez, quand on va en Israël, et quand on voit ceux qui fêtent les fêtes juives de l'Ancienne Alliance, on voit ils sont dans la fête, ils vont au mur, ils dansent, il y a de la joie, ça bouge de partout. Et souvent, tu vas dans les églises, les gens sont nés de nouveau, ils sont sauvés, ils ne prennent pas l'ombre des choses à venir, mais ils prennent la réalité en Christ, et tu les vois dépressifs, il n'y a pas de problème là quelque part? Ouh, dis-moi amen. Hein. Les temps de Sainte-Seine doivent être des temps de fête au milieu de nous. J'ai assisté à des cultes en Afrique, je vous assure, c'est la fête. 5 heures de culte, c'était la fête. Pendant la Sainte-Seine, ça dansait, ça louait, ça adorait de tout son cœur le Seigneur. Et quand tu arrives en Europe, les gens sont tristes. On va voir que tu n'as pas de quoi être triste. Tu es en train de célébrer une victoire quand tu prends la Sainte-Seine. Pas un enterrement, dis-moi amen. Quand j'étais à New York, au culte à Brooklyn, j'étais étonné de voir le quartier de Brooklyn, un quartier qui, à l'époque, quand ils ont ouvert l'église, était pire que le quartier de l'Ariane à Nice. L'Ariane, c'est le jardin d'Éden à côté. Hein? Mais on a vu ces gens qui étaient à la base pauvres venir au culte. Moi, ce matin, j'étais le moins bien habillé de tous. J'étais le moins bien habillé. Mais ce n'était pas juste l'extérieur. L'intérieur suivait. Ils venaient en célébrant, en chantant. Ils étaient beaux. Ils louaient. Il y avait 9000 personnes qui louaient Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je comprends que ce matin, il y avait la Sainte-Seine au culte. Hein. On va vraiment prendre quelque chose qui correspond à une fête. Est-ce que tu es dans la fête ce matin? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Tu es dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Alors, mon premier point ce matin, la scène, c'est un moment où je célèbre ma bénédiction en Christ. 1 Corinthiens 10, verset 16, va s'afficher. 1 Corinthiens 10, verset 16, il est dit, La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Écoutez bien ce que Dieu m'a dit cette semaine. Il m'a dit, alors que je préparais le message très clairement, lorsque nous prenons cette coupe, comment voyons-nous cette coupe? La plupart des chrétiens la voient comme un jugement sur eux-mêmes avant tout. Ils sont en train de te dire, attention, tu vas prendre le pain et le vin, tu vas prendre un jugement. Fais attention ci, fais attention là. Oui, ça sera ma conclusion ce matin, il faut aussi voir la Sainte-Seine de cet aspect-là. Mais avant tout, l'apôtre Paul va parler d'une coupe, non pas de malédiction, mais d'une coupe de bénédiction. Quand tu prends la scène, tu es en train de célébrer une bénédiction. La Bible dit qu'il dresse une table, psaume 23, verset 5, en face de tes adversaires. Est-ce que sur une table, quand je vous invite à manger, il n'y a rien du tout à manger? Imaginez-vous, je vous invite à une table et je vous présente des sardines et du pain. Qu'est-ce que vous dites? Il faut dire qu'il faut augmenter le salaire du pasteur, non? Il y a un problème. Non, je te présente des mets succulents. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est une table de bénédiction. C'est la table du Seigneur. Quand tu t'approches, non pas que tu soupes avec tes ennemis, mais tu prends une force pour vaincre tes oppresseurs, pour vaincre tes ennemis. Mais c'est une coupe de bénédiction. Vous savez, la plupart des croyants voient Dieu encore comme l'Ancien Testament. Il va te juger. Il va te juger. Oui, il va te juger si tu ne rentres pas dans les choses que lui, il te demande, dans l'obéissance. On verra plus loin. Mais avant tout, quand Dieu crée la Sainte-Seine, il ne la crée pas pour nous juger. Il la crée pour nous bénir. Amen. Il l'appelle la coupe de bénédiction. Dis-moi amen. Amen. Donc tous les dimanches, quand tu la prends, tu peux dire, quand tu es en règle avec Dieu, je prends une bénédiction pour ma vie. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Alors qu'est-ce que je célèbre à la Sainte-Seine? Quelle est cette bénédiction qu'on appelle également mon héritage, ou le tout accompli à la croix que je célèbre dans ma vie? La première chose, c'est que je célèbre le fait que je suis devenu un homme ou une femme délivré à la croix en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 12 et 13, va s'afficher. Il est dit là, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Que personne ne dit que c'est un incapable ce matin. Si tu as rendu, ça a reçu Jésus, tu es rendu capable ce matin. Dis-moi amen.
Amen.
D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, verset 13. Qui nous a délivrés, pas qui nous délivrera, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Premier élément, je célèbre ma délivrance par la Sainte-Seine. Je célèbre le fait, je vous ai dit il y a une semaine, c'est une confession de foi, que devant le monde spirituel, devant Satan, devant les démons, devant les anges déchus, devant l'Église et devant le Seigneur, je suis un homme délivré et une femme délivrée en Jésus. Amen. Et je célèbre ça dimanche après dimanche. Qu'est-ce que c'était, souvenez-vous, la Pâque? La Pâque, c'était la délivrance aussi du pays d'Égypte. Ils sortaient de l'esclavage, ils sortaient du joug de l'oppresseur et ils étaient délivrés. Et quand je prends le pain et le vin, je suis en train de célébrer ma bénédiction et ça commence par ma délivrance en Jésus. Est-ce que tu sais que tu es délivré dans le Seigneur? Mais où? À la croix. Il t'a délivré, il a changé ta nature. Tu es un homme libre en Jésus, une femme libre en Jésus. Mais il va plus loin. Tu célèbres également quelque chose qui va avec. Ah, j'aime ce passage. Tu célèbres la délivrance de la malédiction. Galates 3, verset 13. Encore une fois, ça se passe où? À la croix. Christ nous a rachetés, pas il nous rachètera dans le millénium, de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il a été fait malédiction. Il a été fait maladie. Il a été fait péché, pourtant pas pécheur. En son corps, il a porté toutes ces choses. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Et quand tu prends le pain et le vin, tu es en train de célébrer le fait que sur ta vie, légalement, spirituellement, il n'y a plus aucune malédiction qui doit tenir. Tu es en train de célébrer le fait que tu es un homme et que tu es une femme bénie. Amen. Est-ce que tu y crois ce matin?
Amen.
Alors au cas où certains, c'était mon regard un peu bizarre, alors, écoutez-moi bien. On va prendre un autre passage, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Que dit Paul? Je vous rappelle que l'épître aux Éphésiens, c'est une église très mature, Éphèse. C'est comme Colosse, ils avaient compris, c'est pas Corinthe, hein. Ils avaient compris des réalités spirituelles. Et là, il va leur dire, béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis déjà maintenant de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dis-moi amen.
Amen.
Il t'a déjà béni. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi, 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 il te dit non, je t'ai déjà béni. En Christ, tu es déjà béni. Amen. À la croix, tu as pris sur toi ma bénédiction et j'ai pris sur moi ta malédiction.
Amen.
Et quand je célèbre le pain et le vin, Je suis en train de célébrer publiquement, spirituellement parlant, le fait que je suis un homme qui est béni. Hein. Je suis une femme qui est bénie en Christ. Hein. Et quand je prends le pain et le vin, qu'est-ce qui se passe? Par la foi, tout fonctionne par la foi. Je suis en train de déclarer légalement que ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes, elles sont en train de descendre dans ma vie. Je prends par la foi, Seigneur, je suis béni, je le crois. Je mange ton corps, je bois ton sang, je célèbre ma bénédiction, la coupe de la bénédiction. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Je suis en train d'être béni. Si tu fais que dire que t'es maudit, t'as beau prendre la Sainte-Seine, tout ce que tu veux, il n'y a rien qui fonctionne. Ça fonctionne quand tu te mets dans les positions spirituelles qu'il faut, c'est-à-dire la foi liée à la parole de Dieu. Tu prends ces choses, il se passe quelque chose, dis-moi amen. Alors qu'est-ce que je célèbre également? Quand je prends la coupe de bénédiction, je célèbre quelque chose de très important qui s'appelle ma communion rétablie avec Dieu. Je vous rappelle que ça fait partie de mon héritage en Christ. Adam a coupé la communion, Christ par la croix a rétabli la communion. Avant la croix, personne n'allait au ciel. Avant la croix, la destination c'était le sein d'Abraham. Et quand Jésus est mort, il a ouvert le ciel. Et tous les saints de l'Ancien Testament sont rentrés dans le ciel. La communion est rétablie avec Dieu. Et quand je prends le pain et le vin, je suis en train de célébrer ma communion rétablie. C'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 que le pain, c'est la communion au corps. Que le vin, c'est la communion au sang de Jésus. Quand tu prends le pain et le vin, tu es en train de célébrer le fait que tu es à nouveau en communion avec le Dieu vivant. Tu es en train de déclarer ma communion avec toi est rétablie. Je célèbre ma communion avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a une semaine, je vous ai dit que le mot communion dans 1 Corinthiens 10, c'est littéralement en grec, c'est le mot koinonia, qui veut dire union, et qui vient du mot koinonios, qui veut dire être joint. Au moment où je participe au repas du Seigneur, je suis uni avec le Seigneur. Je suis joint avec le Seigneur. Lui et moi, on fait plus qu'un spirituellement. Et quand je prends le pain et le vin, je suis en train de célébrer cette communion. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Je vous rappelle un passage dans Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair, là il parle de la Sainte-Seine dans Jean 6, hein, vous lirez le texte, et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. Amen. Et un des moyens pour porter du fruit, c'est demeurer en lui, vous lirez Jean 15. Amen. Et un des moyens, c'est prendre régulièrement le pain et le vin. Et c'est pour ça que Paul le faisait, c'est pour ça que les apôtres le faisaient, pour demeurer dans la communion avec lui. Je célèbre devant le monde spirituel que ma communion est rétablie avec Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Alors, j'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que c'est un moment aussi où je dois mettre ma vie en règle avec Dieu. Si quelque chose brise la communion, c'est pas la faute de Jésus, lui sa part elle est faite. Mais si ce matin, je prends le pain et le vin, et c'est juste, excusez-moi, de l'apparence, on ne joue pas aux chrétiens, on est des chrétiens ce matin. On ne tombe pas un film, c'est la vérité ce matin. Si ce matin, je prends le pain et le vin, je me tiens dans la foi, mais ma communion n'est pas rétablie à cause du péché, il faut que je règle le péché. Puis je prends le pain et le vin dans la foi, et la communion elle est établie avec le Seigneur.
Merci, Seigneur.
Et c'est pour ça que c'est important de s'examiner. Avant de prendre le pain et le vin, je peux le prendre tout ce que je veux, déclarer ce que je veux, mais s'il y a du péché que je pratique régulièrement sans la repentance, je ne suis plus en communion avec lui. Est-ce que tu me suis ce matin?
Amen.
Il faut que je rétablisse la communion. Écoutez bien ce que va dire Jean, je lis pour vous. Dans 1 Jean 1, verset 3, il a cette révélation. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie, elle découle de la communion que nous avons avec lui.
Amen.
Est-ce que tu es en communion avec lui?
Amen.
Ce matin, je dis Seigneur, enfin hier soir, je me suis couché, je dis Seigneur, tu sais, ah, je trouve que j'ai pas passé un super... Hier soir, j'étais dégoûté hier soir. Je priais, je sentais pas vraiment la présence de Dieu. Et là, je l'entendais pleurer devant Jésus. Elle pleurait, Dieu la bénissait, il la bénissait. Je dis, waouh, chérie, je te laisse, je vais me coucher. Hein. Moi, je sentais pas la présence de Dieu. Et je dis, Seigneur, je veux la sentir, je prêche demain. J'ai besoin de cette communion avec toi. Et ce matin, à 5h du matin, alors j'avais mis le réveil à 6h, le Seigneur me réveille. Et il dit, tu veux être en communion? Oui, je veux, Seigneur. Alors, lève-toi. Et j'ai passé 2 heures à la présence de Dieu. Mais je vous assure, c'est merveilleux, la communion, elle est établie avec lui.
Amen.
Et quand je prends le pain et le vin, je suis en train de célébrer cette communion.
Amen.
Hein. C'est tout ce que vous faites ce matin. J'ai réfléchi le même message en Afrique, c'est pas grave. Qu'est-ce que je déclare également? Quand je prends le pain et le vin, je célèbre, écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Je célèbre la guérison divine dans ma vie. Je célèbre le fait que je suis déjà guéri dans le Seigneur. Je déclare que ces choses m'appartiennent. Souvenez-vous, on a étudié Ésaïe ensemble. Ésaïe 53, verset 5, vous le lirez dans ses meurtrissures. Il le dit 700 ans avant la croix. Nous sommes guéris. Et dans 1 Pierre 2, verset 24, 30 ans après la croix, il dira, dans les meurtrissures duquel vous avez déjà été guéris. Qui croit cette parole ce matin? On est déjà guéris. Et prendre le pain et le vin, c'est vraiment où je célèbre ma guérison. Je suis en train de déclarer, waouh, Jésus, tu m'as déjà guéri. Même si t'as mal, ton corps te fait souffrir, Satan t'oppresse, ça c'est pas grave. Regarde pas à ça, regarde à ce que dit Jésus. Célèbre ta bénédiction. Et j'ai dit, il y a une fois, on a vu des guérisons extraordinaires. Une sœur me dit qu'elle était stérile récemment. Elle a pris le pain et le vin et Dieu lui a donné un enfant.
Amen.
Ma mère a été guérie, d'autres ont été guéris. Quand tu prends le pain et le vin, tu célèbres par la foi.
Amen.
C'est par la foi que ça se passe. Ta guérison, ta bénédiction, tu le déclares dans ces meurtrissures. J'ai déjà été guéri, dis-moi amen.
Amen.
Alors, également, je précise, Jean 6, 54, que la Sainte-Seine est un moyen pour faire circuler justement en moi la guérison divine. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et il y a une semaine, je vous ai expliqué ce passage. Il est très important. Je vous ai dit que quand il dit, il boit la vie éternelle, il mange, il a la vie éternelle. Il est en train de dire littéralement en grec, il a la vie Zoé. Ce n'est pas la vie éternelle dans le sens la vie après la mort, tout le monde là. Ou en enfer ou au ciel, tout le monde vivra éternellement. Mais il est en train de dire la qualité en grec Zoé, la qualité de vie que Dieu a. Quand je prends la Sainte-Seine, je suis en train d'absorber par la foi la qualité de vie de Dieu qui est le Saint-Esprit en moi. C'est ça qui se passe spirituellement. Il y a une autre vie qui s'appelle Tsuké, c'est la respiration de l'âme. Tous les hommes ont cette respiration-là. Mais Zoé, seulement l'ont ceux qui ont reçu Jésus à l'intérieur d'eux. Et au moment où tu prends le pain et le vin, tu es en train de renouveler en toi cette vie éternelle qui s'appelle la vie Zoé. Écoutez bien ce que Dieu m'a dit. Cette semaine, il me disait pour m'expliquer cela, que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce que pour autant tu es constamment rempli du Saint-Esprit?
Non.
Il y a des gens qui ont reçu le baptême de l'Esprit il y a 10 ans, tu les vois, c'est des cadavres aujourd'hui. Ils sont morts spirituellement. Mais pourtant, quand Dieu nous l'a donné, c'est pour être constamment rempli de l'Esprit. Et vous direz dans Acte 4 qu'ils vont recevoir une nouvelle visitation de la part de Dieu. Parce que le fait d'être baptisé de l'Esprit ou d'être né de nouveau n'assure pas le fait que tu sois constamment rempli de l'Esprit. Il faut le renouveler. Il faut chercher Dieu, il faut obéir à sa parole, il faut avoir une vie de prière. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Tu as déjà reçu la vie éternelle en toi, mais tu as besoin d'une petite piqûre pour te renouveler. C'est ça qu'il est en train de dire. De la même manière que le vaccin suffit, un peu de vaccin pour t'immuniser, un peu de ce pain, un peu de ce vin te suffit pour recevoir encore une dose de la vie éternelle. Tu es rafraîchi. Et alors, quand tu prends le pain et le vin, tu peux déclarer cette vie qui est déjà en moi. Elle passe de mon esprit vers mon âme et de mon âme vers mon corps qui est malade. Tu peux déclarer quand tu prends le pain et le vin, je prends par la foi maintenant que cette vie Zoé est en train de patrouiller mon corps. Elle est en train de visiter mon corps malade. Elle visite mes pieds, mes mains. Je suis en train de prendre la vie éternelle. Et quand tu fais ça dans la foi, je t'assure qu'il se passe quelque chose. Ou il se passe quelque chose où Dieu est un menteur. Qui croit que Dieu dit la vérité ce matin?
Amen.
Alors il se passe quelque chose. On voit un autre texte, Néhémie 9, 20 et 21. Ça c'est seulement l'ombre des choses à venir. Ce qu'on lit maintenant, c'est pas la nouvelle alliance, c'est l'ancienne alliance. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne leur refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Écoutez bien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Moi, quand je dis ça, je suis jaloux. Et il me dit non, c'était juste l'ombre. Toi, t'as la réalité en Christ.
Amen.
Ils prenaient la manne et ils buvaient un rocher qui s'appelait Christ et de ce rocher sortait de l'eau. Et ils étaient en train de prendre la Sainte-Seine pour eux, à ce moment-là où ils faisaient ça par la foi. La manne qui était un aliment naturel devenait pour eux un aliment spirituel. L'eau qu'ils buvaient, qui était un aliment naturel, devenait pour eux un breuvage spirituel. Vous verrez, Paul en parle dans le livre aux Corinthiens. Et c'est la même chose pour nous. Quand je prends le pain et qu'on a rendu grâce, ce pain, qui peut être d'Auchan, de Carrefour, d'où tu veux, devient pour moi un aliment spirituel.
Amen.
Quand je prends ce vin, qui peut être un Bordeaux, ce que tu veux, tu pries et ce vin devient un breuvage spirituel. Et concernant l'ombre, ça leur a permis pendant 40 ans de marcher dans le désert sans avoir aucune ampoule. Sans voir leurs chaussures être bousillées, ni leurs vêtements être usés, pendant 40 ans au soleil. Est-ce que tu me suis ce matin? Quand je vois que nous, on joue au foot des fois, demander à mon épouse, j'ai des ampoules comme ça après le foot. Je dis non, Seigneur. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a un truc qui me manque. Il me manque la révélation que Paul avait, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il l'avait compris. Croyez-moi, s'il y avait des morts au milieu d'eux, parce qu'ils ne prenaient pas la Sainte-Seine en règle, vous ne croyez pas que la Sainte-Seine, elle produit l'autre effet quand je la prends en règle? Elle produit une bénédiction pour ma vie?
Amen.
Ah, mais dis-moi amen. Amen. Elle produit quelque chose. Les pieds n'étaient pas enflés, aucun hématome. Pourquoi? Il prenait la malle et l'eau, l'ombre de la Sainte-Seine. J'ai bientôt fini, je célèbre quoi encore une fois? Je célèbre en prenant la Sainte-Seine quelque chose qui est partie de mon héritage, qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Lisez dans l'Ancien Testament, personne n'est baptisé de l'Esprit. Il y a tous les dons sauf baptême de l'Esprit. Tu vois, des gens qui sont guéris, des gens qui prophétisent, des gens qui ont la foi, des gens qui font des choses extraordinaires. Mais le baptême de l'Esprit accompagné du parler en langue, c'est un don qui est seulement pour la Nouvelle Alliance. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait que le vase que nous sommes soit purifié au travers le sang de la croix pour que l'Esprit à nouveau puisse le remplir. Et quand tu es baptisé de l'Esprit, tu es plongé dans l'Esprit, tu es immergé dans l'Esprit.
Amen.
Et je crois que c'est un moment favorable pour certains de recevoir le baptême de l'Esprit pendant la Sainte-Seine. Tu déclares, Seigneur, ça fait partie de mon héritage, t'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Et tu commences à prier en langue. Ouvre ta bouche et Jésus la remplit ce matin.
Amen.
Est-ce que vous me suivez, hein?
Amen.
Et en fait, un dernier bout de mon héritage. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin, mais un dernier bout de mon héritage. Je célèbre son retour, mais je célèbre quelque chose de très important. On l'a lu tout à l'heure ensemble. C'est le fait que je participerai aux noces de l'agneau. On a vu dans 1 Corinthiens 11, verset 26, je relis pour vous, toutes les fois, on l'a vu il y a une semaine ce texte, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il y a une notion du retour de Jésus dans la Sainte-Seine. Je suis en train de prendre le pain et le vin et j'ai mes yeux fixés sur l'avènement du Seigneur. J'ai mes yeux fixés sur l'enlèvement de l'Église. Et je déclare que je serai pris parce que, justement, je marche avec lui. Je suis rempli de l'Esprit, aussi par la Sainte-Seine, quand le jour où Jésus viendra chercher son épouse. Mais je déclare également une autre chose. Et ça, on l'a lu dans Matthieu 26, verset 29, où Jésus dit, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de Dieu. » De quoi Jésus parle? Il parle d'Apocalypse 19. Vous connaissez Apocalypse 19? C'est quoi? Les noces de l'agneau. Ouais. Il est en train de dire, pour moi, pour vous, faites-le sur la terre jusqu'à ce que je vienne, mais moi, maintenant je m'en vais. Et je ne le ferai plus jusqu'au jour où je le ferai avec vous dans le royaume de Dieu. Et il est en train de parler de ce grand repas. Et vous lirez Apocalypse 19, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Est-ce que tu es heureux ce matin?
Amen.
Est-ce que tu conçois que lorsque tu prends le pain et le vin, tu es en train de fêter le fait que tu es invité aux noces de l'agneau? Tu es en train de déclarer devant les ténèbres « T'as plus mon âme, Satan! T'as plus ma vie! Je serai un jour au festin des noces de l'agneau! » Il n'est pas en train de dire « Malheureux » dans Apocalypse 19, verset 9. Il est en train de dire « Heureux! » Souriez, vous êtes sauvés ce matin. Heureux, j'aurai part aux noces de l'agneau. Vous lirez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le retour de Jésus. Vous lirez l'épître aux Thessaloniciens, il est dit qu'il nous délivre de la colère à venir. Quelle colère, la tribulation, de tout mon cœur je le crois. Mais il nous délivre également du jugement dernier. Et quand je prends le pain et le vin, je suis en train de célébrer ces choses, célébrer ces choses, célébrer ces choses. Dis-moi amen.
Amen.
On termine par un dernier texte. Parce que s'il manque la conclusion, le message n'est pas complet ce matin. 1 Corinthiens 11, versets 29 et 30. Il y a aussi un avertissement ce matin. Pour ceux qui prennent le repas du Seigneur, sans avoir une vie qui est en règle avec Dieu. Tout à l'heure, je disais, on ne joue pas aux chrétiens, on est des chrétiens ce matin. Versets 29 et 30, il est dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » On dit aussi « Amen » à la parole de Dieu. Pourquoi il dit cela, Paul? Il a fondé l'église de Corinthe, vous lirez 1 Corinthiens chapitre 1, il a prêché la croix, il a mis l'église en place, et il revient quelques années plus tard. Il regarde, il dit « Eh, la sœur Joséphine, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Le frère Jean-Paul, il n'est plus là. La sœur Gwendoline, elle n'est plus là. Ah non, elle est juste malade, elle est juste infirme. Je ne donne pas de nom connu ici, vous inquiétez pas. Hein. » Et puis il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Dieu lui montre, il a cette révélation de Dieu. Quand ils prennent le pain et le vin, ils ne discernent pas. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades et beaucoup de morts prématurés au milieu d'eux. Alors ça veut dire quoi discerner ce matin? Discerner en grec, c'est dokimazo, qui veut dire approuver, apprécier ou examiner le corps du Seigneur. Et quand Paul parle du corps du Seigneur, il parle du corps physique et du corps spirituel. C'est-à-dire que premièrement, quand tu prends le pain et le vin, tu te souviens réellement du corps physique de Jésus. Vous lisez Isaïe 53, en son corps il a porté les maladies, les péchés, les malédictions. T'es pas en train de prendre comme un gars ingrat ou une femme ingrat. T'es pas en train de prendre un truc religieux. T'examines. Tu dis, Seigneur, waouh, je discerne ce que t'as fait, c'est extraordinaire. Et ensuite, quand l'Esprit te montre, suite à l'œuvre de la croix, ce qui doit changer en toi, tu le confesses à Dieu, t'abandonnes le péché. Chose que les Corinthiens ne faisaient pas. Il y avait de l'adultère, il y avait de l'impudicité. Ils continuaient à prendre la Sainte-Seine où ils vont dans le péché. Mais deuxièmement, tu examines, tu discernes le corps physique, spirituel, pardon, qui est l'Église de Jésus. Amen. Si tu prends la Sainte-Seine sans discerner son corps spirituel, tu prends aussi un jugement contre toi-même. Et dans le contexte du texte, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment là que Paul met le poids. Vous lirez Corinthiens 11, il est en train de leur dire, vous faites des agapes, les riches méprisent les pauvres, vous enivrez, vous mangez avant les pauvres, vous attendez pas, il y a des divisions, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. C'était une église catastrophique, avec tous les dons, mais il y avait une zizanie dans cette église. Il est en train de dire, vous ne discernez pas les uns les autres. Vous dites pas, celui-là c'est mon frère, c'est ma soeur, j'ai du respect. Résultat, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de malades au milieu de vous. Et ce matin, je termine par ça. Si tu as ces points-là réglés avec Dieu, crois que tu ne prends pas une malédiction, mais que tu prends une bénédiction ce matin.
Amen.
Et si tu te sens concerné par ce que j'ai dit, règle ta vie ce matin. On va prendre le pain et le vin, c'est le moment de le faire. Repends-toi. Seigneur, je ne discerne pas le corps spirituel ni le corps physique de Jésus. Je vis dans le péché, je critique mon frère, ma soeur, je viens, je prends la communion avec lui. Non, je vais arrêter tout ça, Seigneur. Je vais mettre ma vie en règle avec toi.
Amen.
Et si tu fais ça, tu prends une bénédiction.